Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le médecin que vous auriez pu devenir a plutôt choisi de distribuer des cachets à des artistes dont vous soignez l'image. L'homme de l'ombre que vous êtes consacre sa vie à les mettre en pleine lumière. Bonjour Jean-Luc Azoulay.
Bonjour Jacques Pessis, quel beau tableau.
C'est vous, hein?
Qu'est-ce que tu écris bien, Jacques?
Je ne suis qu'un disciple. Alors, on va évoquer donc votre carrière, Jean-Luc Azoulay, parler aussi des mystères de l'amour, bien sûr, tout à l'heure, mais finalement, comme vous êtes un homme de l'ombre, on ne sait pas très bien comment vous êtes arrivé là, et on va le raconter aujourd'hui à travers des dates. Alors, la première ne vous concerne pas directement, mais elle est importante, c'est le 25 décembre 1966, il y a un car qui va vers Orly, et à bord, il y a quelqu'un qui chante cette chanson. Cette chanson de Sylvie Vartan, c'est Carlos qui la chante. Je ne sais pas si vous venez de cette image dans un aéroport.
Absolument.
Et pourquoi Carlos? Parce que finalement, Carlos, c'est quelqu'un d'important pour vous.
Absolument. Carlos, c'est quelqu'un de formidable. Parce que ça a été, d'une part, mon meilleur ami. Ça a été un peu mon mentor, c'est lui qui m'a introduit dans ce métier et c'est quelqu'un que j'ai adoré jusqu'au bout de sa vie.
Voilà. Alors Sylvie Vartan aussi, puisque Sylvie Vartan, vous l'avez découvert, je crois, Jean-Luc Azoulay, en écoutant l'émission Salut les copains.
Et ben comme tout le monde écoutait Salut les copains, il y avait Sylvie Vartan qui régnait sur Salut les copains, qui était chouchou, qui était toujours numéro un et j'ai trouvé Sylvie formidable, j'avais 15 ou 16 ans.
Qu'est-ce qui vous touchait en elle?
Tout, sa voix, sa beauté, son charme, sa présence. Alors, c'était mon idole.
Voilà. Et au départ, si mes copains, on l'a un peu oublié, c'était en 59 une émission prévue pour un seul été, avec une animatrice. Et comme il n'y avait pas assez de disques, on a appelé Daniel Philippaki en secours pour qu'il apporte ses disques. Et ça a continué pendant des années. Alors, Sylvie Vartan, vous l'aimez tellement que vous avez créé un fan club, Jean-Luc Azoulay.
J'ai créé le fan club Sylvie Vartan qui n'existait pas. Donc, j'étais à l'époque encore lycéen. Je passais mon bac, je crois. J'ai commencé à créer le fan club Sylvie Vartan. Ensuite, j'ai commencé médecine et j'ai continué le fan club Sylvie Vartan et voilà.
Et elle avait accepté le fan club d'office ou c'est... Je crois que Carlos était là déjà.
Carlos n'était pas là au début quand j'ai créé le fan club. Forcément, c'était un fan club, je connaissais personne, mais Carlos, je l'ai rencontré assez rapidement parce que j'avais une qualité énorme, c'est que j'allais attendre Sylvie devant chez elle et que je croisais Carlos qui allait chercher des cigarettes ou un café ou quelque chose. Et très vite, Carlos, je suis devenu son assistant parce que c'est moi qui suis allé chercher ses cigarettes. C'était formidable.
Car Carlos était à l'époque le secrétaire de Sylvie.
C'était le secrétaire de Sylvie, absolument.
Alors, au départ, vu vos origines, votre musique favorite, c'est plutôt le raï ou le flamenco, car vous êtes né à Sétif, en Algérie. Sétif qui est considéré comme la capitale commerciale de l'Algérie, Jean-Luc Azoulay.
Ah, je l'ignorais. Je sais que c'est la capitale des hauts plateaux, c'est-à-dire que c'est à 1100 mètres d'altitude. Et que donc, quand je suis arrivé en métropole, je connaissais la neige, c'est une ville qui avait été construite par Haussmann, donc je connaissais les rues haussmanniennes. Donc j'ai pas été très dépaysé.
Et là-bas, vous avez quelques souvenirs quand même, en Algérie?
Des souvenirs d'enfance, bien sûr, oui, bien sûr.
Alors, vous arrivez à Paris à 15 ans, avec un père qui est professeur de mathématiques, et vous, ce qui vous intéresse plutôt, c'est la médecine?
Non, la médecine m'intéresse absolument pas. Simplement, j'ai mon bac, il faut que je fasse quelque chose. J'ai beaucoup d'oncles, de cousins qui sont médecins. On me dit, il faut que tu fasses médecine, donc je fais médecine. C'est aussi simple que ça.
Mais vous suivez les cours attentivement, vous apprenez quand même.
Ah bah oui, parce que quand on fait quelque chose, il faut apprendre. C'est aussi amusant. Puis c'est pas inintéressant, la médecine.
Et puis, le destin fait que Carlos se lance dans la chanson, avec Sylvie Vartan, et même tout seul ensuite. Donc, il faut un remplaçant.
Bah, ça s'est fait, pour Carlos, ça s'est fait par hasard. C'est-à-dire que Sylvie chantait une chanson qui s'appelait 2 minutes 35 de bonheur. Oui. Il fallait une voix. Carlos était là. On dit, tiens, pourquoi t'essayes pas? C'était rigolo. Carlos l'a fait. Et Carlos s'est pris au jeu. Et donc, petit à petit, il est devenu lui-même chanteur. Il ne pouvait plus s'occuper de Sylvie. Et il l'a dit à Sylvie d'abord, qu'est-ce que tu penses de Jean-Luc pour me remplacer? Elle a dit, pourquoi pas? Et il m'a demandé. Et puis, bon, j'étais mon ravi.
Ah oui, parce que, mais les études de médecine à ce moment-là, c'était...
Bah, j'ai eu le choix, alors c'était je pense en 71 ou 60, oui 71 je pense, j'ai eu le choix entre mes examens ou une tournée au Japon. Et le Japon en 71, c'était très 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 loin, c'était un pays mythique, personne n'y allait en 71.
Il y avait quelques chanteuses françaises comme France Gall ou Juliette Gréco.
Pas encore, non, Sylvie était... Il y avait peut-être Juliette Gréco, mais pas France Gall encore, Sylvie était la première. Et donc, pour aller au Japon, il fallait passer soit par Novosibirsk, soit par Anchorage, dans des vols improbables. On mettait un temps fou pour y aller, et c'était un autre Japon que celui qu'on connaît maintenant.
Et donc, vous avez choisi le Japon plutôt que les examens?
Je me suis dit, les examens, je les passerai en septembre. Et en septembre, on est devenu une autre tournée, donc je n'ai pas fait mes examens.
Ben oui, c'est comme ça que ça commence.
Mais alors... je peux encore, hein, parce que comme il n'y a pas de limite, puisque j'étais en quatrième année, je peux toujours, paraît-il, continuer ma médecine.
Je sens que vous en avez envie.
Je m'en meurs d'envie.
Alors, vous découvrez le monde du spectacle qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous apprenez votre métier sur le terrain, Jean-Luc Azoulay.
J'apprends mon métier non seulement sur le terrain, mais en plus j'apprends mon métier en première classe, c'est-à-dire avec des stars, avec Sylvie Vartan, avec Johnny Hallyday, avec Carlos, avec tout ce monde de cette époque, avec Guy Lux, avec les Carpentiers, avec tous les plus grands de
oui,
la télé.
Parce qu'à l'époque, on a oublié, mais Guy Lux, c'était une institution. Le jeudi, le jour du palmarès, les fans envahissaient le studio 102.
Absolument, mais tout était une institution. Les Carpentiers, c'était miraculeux ce qu'ils faisaient. Mais tout c'était vraiment une époque formidable pour les variétés, en tout cas.
Est-ce qu'on se rendait compte qu'elle serait un jour mythique ?
Moi je me rendais compte, oui, parce que je savais que c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on faisait, j'en avais conscience.
Et vous avez vu les débuts de Drucker aussi, il a commencé dans Tilt Magazine, où Sylvie chantait.
Il a commencé dans Tilt Magazine, c'était même un des amis de Carlos, puisque c'est Michel qui a inauguré la boutique Sylvie Vartan, avenue Victor Hugo. Il était tout jeune à l'époque.
Et cette époque-là, donc Guy Lux, les Carpentiers, il y avait des grandes réunions chez eux le lundi rue Guynemer, et je pense que vous y assistiez.
Quand il s'agissait de Sylvie Vartan, bien sûr, j'assistais à la réunion où on évoquait toutes sortes d'idées, où Mariti trouvait plein de choses, où chacun donnait son avis, et finalement ça donnait un numéro un.
Voilà. Et finalement, tout était possible, il n'y avait pas de restrictions, c'était pas aussi compliqué qu'aujourd'hui.
Ah, c'était compliqué, parce que je me souviens que il fallait sans arrêt aller demander aux responsables d'avoir une rallonge pour les danseurs, d'avoir une rallonge pour les décors, il devait avoir une rallonge pour ceci, pour cela. Alors le responsable à l'époque s'appelait Monsieur Nakache,
oui,
à la SFP.
Jacques Nakache,
qui était formidable, et qui m'avait pris en affection parce qu'on était tous les deux nés en Algérie et tout ça. Et donc, Mariti me disait, va voir Jacques Nakache, essaye d'avoir un peu plus pour les décors. Donc j'allais voir Jacques Nakache, il me disait, ah bon, d'accord, c'était formidable.
Voilà, mais effectivement, on a improvisé, on avait une idée, on l'a réalisé tout de suite.
On l'a réalisé tout de suite, absolument, c'est-à-dire qu'il y avait tout était possible. Mais c'est toujours possible, hein, c'est comme ça chez JLA, vous savez.
Oui, mais chez vous, parce que vous êtes resté un artisan, mais moi je me souviens de l'époque où on rentrait à la maison de la radio pour assister aux émissions de Guy Lux, comme dans un moulin. On se fait passer pour un assistant avec un papier, un stylo à la main, et personne ne vous arrêtait ou ne vous contrôlait.
Oui, mais ça Jacques, c'est simplement toi parce que t'avais une tête d'assistant.
Voilà, ça doit être pour ça.
Je plaisante. J'ai connu Jacques, je vais vous raconter mon histoire quand même, parce qu'il faut quand même que je vous dise, j'ai connu Jacques, il était assistant de Philippe Bouvard pendant que j'étais assistant de Sylvie Vartan.
Exactement.
Depuis longtemps.
Exactement, mais on ne les fait pas. Alors, il y avait quelqu'un à gérer aussi, c'était Johnny, parce que c'était pas facile, Johnny et Sylvie, ils étaient encore mariés, encore heureux, et Johnny était un peu fantaisiste parfois.
Non, pas vraiment. Johnny, c'était quelqu'un, contrairement à ce qu'on pense, de très sympa, très raisonnable. Avec lui, c'était un petit couple normal. Notre bureau, quand on travaillait, c'était dans leur cuisine. C'est-à-dire qu'on attendait dans la cuisine qu'ils soient prêts pour parler avec eux, pour les emmener, pour voir tout ça. Et Johnny, c'était quelqu'un, non, honnêtement, quand on le côtoyait tous les jours, il était pas si fou que ça. Il s'amusait. Johnny, un jour, il a réussi quelque chose à me dégoûter de la moto. Je devais avoir 17 ou 18 ans. Il m'a dit, viens, je vais te faire faire un tour. Il m'a fait le tour de Paris en moto derrière lui à 200 à l'heure. Je suis plus jamais remonté sur une moto. Il était mort de rire.
Alors, il y avait un fan club de Johnny aussi, avec lequel le fan club de Sylvie Vartan travaillait.
Le fan club de Johnny a été créé bien après, par mon ami Josette Sureau, qui hélas nous a quittés. Mais c'est vrai qu'on travaillait ensemble, puisqu'on était copains.
Et puis, vous avez passé beaucoup de temps en Italie, une fois par semaine, Jean-Luc Azoulay, à cette époque-là.
Oui, à l'époque, c'était compliqué, parce que, comme j'avais arrêté mes études de médecine, j'avais pas fait mon service militaire, et j'étais marqué comme déserteur. Donc, Sylvie avait une émission toutes les semaines sur la RAI, qui s'appelait Doppia Copia, il fallait qu'on y aille, et j'étais marqué sur les listes à l'aéroport. Donc, Sylvie passait devant, je prenais tous les bagages, je disais, c'est mon secrétaire, allez-y, et je passais comme ça.
Exactement. Et en même temps, c'est une façon d'apprendre le métier de manager, parce que vous avez été aussi le manager de Sylvie ensuite.
Ensuite, j'ai grimpé les échelons, je suis devenu son manager, oui. Donc c'était moi qui étais responsable, je me suis retrouvé au Japon avec toute la troupe, avec tout le monde. Et j'étais manager de la troupe, donc j'avais tout l'argent sur moi, je ne savais pas comment faire, parce qu'on était payé en liquide à l'époque. Donc je ne savais pas comment faire, j'avais les poches pleines. Dès que j'arrivais à l'hôtel, je les mettais au coffre, il fallait que je paye tous les gens tous les soirs. C'était assez étonnant et c'était vraiment une expérience, je devais avoir... même pas 20 ans, c'était assez drôle.
Et la consécration, c'est beaucoup plus tard, quand vous avez produit les spectacles de Sylvie Vartan, Jean-Luc Azoulay.
Oh ben oui, mais Sylvie, bon, après, bon, elle était partie aux États-Unis, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé au chômage et que j'ai monté AB Productions, parce qu'elle avait décidé de quitter la France. Et mais ensuite, quand elle est revenue, quelques années après, elle n'avait pas de producteur et j'ai produit plusieurs de ses spectacles, mais c'était très sympa de se retrouver.
En même temps, oui, elle était heureuse de vous retrouver.
Bah, c'est comme si on s'était jamais quitté. Vous savez, c'est ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'on a recommencé à parler comme 10 ans avant. Voilà, tout simplement.
Et la réaction de vos parents dans tout ça, Jean-Luc Cazoulet ?
Oh, mes parents étaient catastrophés. D'abord, au début, ils n'étaient pas au courant. Et ensuite, ils étaient catastrophés. Donc, ils appelaient Carlos.
Oui.
Et Carlos les rassurait comme il faut. Ils disaient, non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et puis, Carlos veut la morale en disant, non, mais ne quitte pas la médecine. Je dis, Carlos, t'inquiète pas.
Et ça a marché, effectivement. On en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 2 mars 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Luc Cazoulet.
Et Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Luc Cazoulet. Alors, on parle des dates de votre carrière. 2 mars 1983, ça vous dira rien, mais d'après mes archives, c'est la première fois qu'on prononce votre nom à la télévision, vous n'êtes pas là, mais une journaliste interroge quelqu'un en disant « Mais comment ce monsieur peut-il être le manager de Sylvie Vartan et se produire les poèmes de Jean-Paul II ?» Et c'est Jean-Pierre Stora qui répond. Car vous avez produit les poèmes de Jean-Paul II en album.
C'était bien avant.
Ah oui, mais c'est la télévision, c'est archivé de ce moment.
Ah d'accord.
C'est la télévision qui prononce ce nom pour la première fois à l'heure de la sortie des poèmes de Jean-Paul II.
Non, c'est pas du tout ça, Jacques, je suis désolé.
Ah,
ma première apparition à la télévision, je devais avoir 16 ans. Il y avait un reportage sur les fans de Sylvie Vartan et j'ai été interviewé par François Jouffa à l'époque.
Voilà. Ça c'est vrai, mais la première fois où on prononce votre nom vraiment comme manager et producteur, c'est ce jour-là.
Peut-être.
Alors, cet album de Jean-Paul II, c'était une folie aussi.
Non, c'était pas une folie, c'était surprenant. C'est-à-dire que on parle un soir avec Claude Berdin, on avait deux bureaux voisins, communicants. Et Claude me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme disque ? On avait fait Jean Marais, Le Petit Prince, on avait fait pas mal de choses déjà. Et je lui dis, il faut des vedettes. Il me dit, ah oui, mais qui a comme vedette ? Je lui dis, ah, tu sais, Johnny Hallyday s'est pris, Elvis Presley vient de mourir. Je ne sais pas. Il me dit, attends, je lui dis, si la plus grande vedette du monde, c'est le pape. Et donc, on a dit, mais pourquoi pas le pape ? Donc, j'avais, avec mes... Au lycée, j'avais appris l'italien, on appelle le Vatican, et on explique notre histoire, qu'on voulait faire des disques avec le pape. Et ensuite, on a mis Jean-Pierre Stora, notre avocat ami de l'époque, sur le coup, et qui a suivi, et il nous a rappelé une semaine après, ils ont dit d'accord.
Voilà. Il faut savoir que ces poèmes, au départ, ont été publiés dans un journal qui s'appelait Caractère, qui était une maison d'édition polonaise, qui était un magazine clandestin au départ, et Jean-Paul II avait trois pseudonymes, Andrzej Gruszda, Piotr Janssen et Andrzej Zewen.
Voilà, on a publié, avant les poèmes, on a publié toutes les messes et discours du pape, qui sont sortis dans le monde entier d'ailleurs.
Alors, tout ça a commencé effectivement avec Claude Berdin, grâce à Carlos, encore une fois, Jean-Luc Cazoulet.
Grâce à Carlos, grâce à Claude-Pierre Bloch, exactement. C'est-à-dire que Claude, qui faisait partie de la bande, est arrivé un jour en disant « Bon, j'ai rencontré quelqu'un qui veut investir sur une marque de vêtements Sylvie Vartan ». Il nous a présenté Roland Berdin, qui avait à peu près une quarantaine d'années, donc qui était très vieux par rapport à nous, et qui nous a dit « Écoutez, voilà, je veux faire une marque Sylvie Vartan, pourquoi pas ?» Et Roland Berdin avait un fils qui s'appelait Claude, qui avait à peu près le même âge que moi, et c'est comme ça qu'on s'est connus.
Oui, je crois qu'ils avaient une boutique de jeans dans le quartier du Sentier à Paris.
Et à l'époque, pas encore. À l'époque, Roland Berdin avait simplement... C'était un promoteur immobilier. Il avait construit un immeuble boulevard Pereire. Ce n'est qu'après qu'il est allé dans le jeans.
Alors, il y avait la boutique de Sheila, déjà, qui avait été bien gérée par un industriel de Besançon, Henri Veil. Et il y a eu la boutique de Sylvie Vartan, qui a également bien marché.
Je me demande si la boutique Sylvie Vartan n'était pas avant celle de Sheila. Il faut que vous vérifiez vos dates, mon cher Jacques.
Je pense que c'est à peu près en même temps, mais que Sheila était en 63.
Ah, peut-être, alors je sais pas.
Donc, vous rencontrez Claude Berdin, et ben, vous vous dites, pourquoi pas travailler ensemble ?
Non, ça c'est après, donc c'est bien après, je rencontre Claude Berdin, on est copains comme ça, parce qu'on a le même âge, parce qu'on a la même origine, parce qu'on a la même culture, mais on est copains sans plus. Et puis, les années passent, Sylvie part à Los Angeles, moi je me retrouve au chômage, je rencontre Claude Berdin à ce moment-là, qui hélas venait de perdre son père. Et on se dit, qu'est-ce que tu fais ? Lui, il revenait de reprendre justement le magasin de jeans qu'il avait monté. Et moi, je cherchais à faire quelque chose. Je dis, sans doute faire du disque. Il me dit, ah, c'est formidable parce que moi, je chante.
Ah bon ?
Ah bah oui, absolument. Ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai dit, ah bon, tu chantes ? Il me dit, ah oui, moi, mon rêve, c'est d'être chanteur. Bon, donc, on essaye de le faire chanter. J'essaye de le faire chanter. Je lui dis, c'est pas terrible. Mais il y avait Pierre Péchin qui interprétait la Seclane et la Formé à l'époque. Et donc, on décide de faire un disque parodique aussi, qui était une sorte de remake de La Drague de Bedos et Sophie Domier, et qui s'appelait Le Plein de Super. C'était l'histoire d'un pompiste qui faisait le plein de Super, qui était pompiste chez BP, qui était formidable. On enregistre ça avec Claude. Bon, c'est rigolo. Et on décide de faire une phase B. Donc, en phase B, Claude tient à faire Strangers in the Night. Donc, il chante horriblement. Sa mère lui dit, tu sais, mon chéri, vous rendrez un excellent métier. Et là, bon, on avait déjà quelque chose. On fait Mustapha en disco.
Voilà.
Avec les choristes, avec les Allumettes, qui étaient les choristes de Claude François, les Fléchettes. Et on sort le disque et on en vend 100 000. Et Claude a compris que c'était le plus beau métier du monde.
Et on va écouter justement ces Mustapha. Alors cette chanson, au départ, c'est une chanson de Bob Azam dans les années 60.
Absolument.
Il avait fait ça aussi, Fais-moi du couscous chéri. Il avait eu le grand prix du disque avec une chanson, j'appelle Jean Lépin, et il est à l'origine d'une chambre d'écho hors studio qu'il a inventée.
Ah ça, je ne savais pas.
Voilà. Et donc cette chanson, vous la connaissiez depuis l'enfance,
Jean? Oui, bien sûr, ça avait bercé mon enfance.
En Algérie, donc.
Bah, forcément.
Et c'est un véritable succès. Seulement, vous créez une maison de disques, A et B, Azoulay et Berda.
Après avoir cherché un nom pendant des semaines, on a failli s'appeler, je ne sais pas, Dagobert, je ne sais pas quoi. Plein de noms, finalement, on a dit, bon, A et B, allez, AB.
Alors, ça veut dire aussi un peu d'argent, parce que je crois que vous avez investi 25 000 francs de l'époque dans la création de cette maison, pas plus.
Ben, Claude avait de l'argent, il était très riche, il avait une boutique de jeans, vous vous rendez compte?
Oui. Mais en même temps, vous faites concurrence. Bon, il n'y a pas les majors d'aujourd'hui, dans les années 80, mais vous faites concurrence à des maisons de disques beaucoup plus puissantes, Jean-Luc Azoulay.
Non, on ne fait pas concurrence, puisque les maisons de disques ont toujours travaillé avec des producteurs indépendants qu'elles distribuaient. Donc nous-mêmes, nous passions par des grandes maisons de disques, par CBS, par Universal, enfin qui s'appelait à l'époque Polygram, par Warner, pour distribuer nos disques.
Mais en même temps, c'était un risque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons comme vous.
Oh, il y en avait pas mal. Si, Jacques, vous avez perdu la mémoire, là, mais c'est normal à votre âge.
C'est vrai, ça. Alors, il y a quelqu'un que vous avez auditionné, qui est Vanessa Paradis.
Non, je ne l'ai pas auditionné, c'est une autre histoire. C'est les Forbans,
oui,
avec qui on était copains, qui viennent un jour en me disant, on a produit une jeune chanteuse qui s'appelle Vanessa Paradis. Est-ce que ça t'intéresserait de le distribuer? J'écoute, c'était plutôt bien. Et donc, on a distribué le premier album de Vanessa Paradis, on a signé un contrat avec elle.
Et sa maman, je crois.
Et sa maman, qui était charmante, mais qui était extrêmement pushy avec sa fille. Et quelque part, je me suis senti mal par rapport à cette petite fille, qui à l'époque n'avait pas l'air d'être passionnée par ce métier. Elle chantait bien, mais elle avait l'air un peu de s'ennuyer. Donc j'ai dit, écoutez, moi c'est pas mon truc faire chanter des enfants, et j'ai rendu son contrat à Vanessa Paradis.
Et elle a fait d'autres choses ensuite.
Ensuite, je crois qu'elle a continué, non?
Oui, mais il paraît.
Et oui, ils m'ont dit.
Alors, il y a aussi une chose, c'est que AB, c'est une complémentarité. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement complémentaire avec Claude Berda dans cette aventure, Jean-Luc Azoulay.
Enfin, moi je suis supplémentaire.
Oui.
Pardon.
Oui. Non, non, c'est vrai que l'un est plus financier et l'autre artiste.
Oui, absolument. Mais non, mais Claude est un artiste aussi, mais c'est un artiste qui s'ignore. C'est-à-dire que Claude adore rire, adore faire la fête, adore tout ça. Et puis, moi, j'aime bien écrire, j'aime bien... Finalement, Claude est plus artiste que moi, quelque part.
Et au départ, vous pensiez que ça irait aussi loin, Jean-Luc Azoulay?
Bien sûr. Sinon, j'aurais jamais commencé.
Exactement.
Mais attendez, vous savez, quand on fait quelque chose dans la vie, on espère toujours que ça va marcher. On ne sait pas à quel point, mais on espère toujours que ça va marcher, sinon on ne le fait pas.
Exactement. Et puis un jour, bah vous allez au Midem et vous tombez malade.
Oui, on n'avait pas beaucoup de budget à l'époque, donc on partage une pizza au moule, et j'ai pris mauvaise moule,
oui,
à Cannes, et j'ai attrapé une hépatite virale. Bon, donc c'est 40 jours au lit, très crevé, très fatigué, un peu comme c'était le Covid de l'époque, quelque part.
Et donc, vous regardez la télévision?
Je regarde la télévision, je me souviens, il y avait Björn Borg qui défrayait la chronique avec Roland Garros, et puis il y avait une jeune picrine qui faisait aussi une émission pour les enfants, qui était une émission étonnante, qui s'appelait Dorothée et ses amis.
Oui.
C'était une émission où on passait des dessins animés. Et Dorothée m'explique après que c'est une émission qui n'existait pas. C'est une émission bouche-trou, c'est-à-dire que c'était la régie finale qui prenait la speakerine, des dessins animés qu'ils avaient en stock, pour boucher les trous d'antenne et arriver à l'heure pour le 20h. Donc, il faisait ses émissions comme ça, sans chef d'atelier, sans responsable, juste la régie finale. Et il balançait ça quand il y avait un trou d'antenne. Et là, je me dis, cette fille a quelque chose.
Oui.
Et quand j'ai été guéri, j'ai appelé Jean-Pierre Stora, toujours le même avocat, qui me dit, mais oui, je la connais très bien. Il ne la connaissait pas, mais Jean-Pierre connaît tout le monde. Et il m'a présenté Dorothée, et j'ai demandé à Dorothée si elle voulait chanter, et elle m'a dit non.
Et ben voilà. La suite, c'est une autre date dont on va parler, le 15 mars 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Luc Azoulay.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Jean-Luc Cazoulet, dont on détaille le parcours. Donc on a parlé de vos débuts avec Vassily Vartan, de AB Productions, et puis le 15 mars 1980, une date clé, car sort cet album.
Chante-nous, chante-nous, chante, chante, Mirontaine et Mironton. Chante-nous, chante-nous, entre, entre, dans le pays des chansons.
Dorothée au pays des chansons, et ça c'est une aventure incroyable aussi, Jean-Luc Cazoulet.
Alors ça, ça date d'avant le 15 mars 1980.
C'est la sortie de l'album.
C'est la sortie de l'album, bien sûr, mais on avait commencé en 78-79. Oui. C'est-à-dire que Dorothée ne voulait pas chanter. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, puisqu'elle ne veut pas chanter, mais elle voulait bien faire des disques. Donc on décide de faire des disques d'histoire, et à l'époque, j'étais ami avec un garçon qui s'appelait Jacques Pessis, qui était un ami sympathique. Je dis, bon, écoute, dînons avec Dorothée et essayons de parler de ce disque. Et en dînant avec Dorothée, dans un pub qui s'appelait le King George, je crois, rue Lincoln. On parle de ça et on se dit, si on faisait un disque qui raconterait une histoire pour les enfants, un petit peu comme Pierre et le Loup, et on a l'idée de faire Dorothée au pays des chansons.
Mais alors, avant, il y avait un autre projet qui était avec Bernard Dimet, qui devait écrire des contes pour Dorothée, Jean-Luc Cazoulet.
Oui, on a parlé de ça, c'est vrai. En plus, Bernard, ça sortait pas. On n'arrivait pas à avoir les contes à temps. Donc on a dit, on va trouver nous-mêmes.
Oui, parce que Bernard Dimet, à l'époque, bon, il est mort quelques temps plus tard, c'était un poète génial qui a écrit entre autres Syracuse en 20 minutes avec Henri Salvador, mais il passait sa vie chez Michou, le cabaret de la rue Montmartre, il était dans le quartier de Montmartre, et il sortait assez éméché tous les soirs, donc il n'écrivait pas forcément le lendemain matin.
Voilà, donc j'ai trouvé Jacques Pessis qui, lui, allait chez Michou, mais ne buvait pas, et on a fait ensemble donc Dorothée au pays des chansons avec Michel Jourdan, qui était aussi un énorme auteur, et qui m'a aussi beaucoup appris sur les chansons.
Alors, il y a deux personnes qui ont cru en Dorothée, c'est vous et François Truffaut.
Non, François Truffaut et moi, parce que, bon, il est mort.
Oui. Mais effectivement, Dorothée aurait pu au départ faire du cinéma, elle a tourné avec François Truffaut, c'était une actrice au départ, avant de devenir une chanteuse.
Ben, Dorothée, c'est surtout une personnalité extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle elle a de la présence, elle rayonne, elle est drôle, elle est intelligente, elle est cultivée, et donc je pense que quel que soit le domaine dans lequel elle soit allée, je pense qu'elle aurait réussi.
Voilà, mais à l'époque elle était juste au Speakerine, présentée Récréado le mercredi, c'était uniquement le mercredi.
C'était une gamine. Quand on l'a connue, elle ne présentait pas encore Récréado. Quand on l'a connue, Jacques, elle ne faisait que Dorothée et ses amis, elle était Speakerine, Récréado, c'est en 78. Et on l'a connu en 77, Dorothée, je te rappelle.
Alors, vous écrivez des chansons et il vous faut un pseudonyme, parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps.
Ça fait pas chic d'être à la fois producteur, auteur, compositeur. Donc, je me dis, bon, il faut un pseudonyme. Ça fait chic d'avoir un pseudonyme quand on est jeune. C'est quand même sympa de se dire, ah, j'ai un pseudonyme, je suis comme tout le monde, quoi. Et donc, je cherche un pseudonyme. Alors, quand on s'appelle Jean-Luc, en général, les gens ne se souviennent pas. Ils vous appellent Jean-François, Jean-Yves, Jean-Marc. Donc, on m'appelait beaucoup Jean-François. Ils disent, bon, tiens, pour Jean-François, c'est rigolo. Et le nom, j'étais un petit peu irrévérencieux à l'époque, j'ai voulu m'appeler Pourri, parce que je trouvais ça amusant, Jean-François Pourri. P-O-U-2-R. Non, R-Y, pardon, oui. R-Y. P-O-U-R-Y, ça faisait américain le Y. Et donc, je fais ma déclaration, ça sème, je marque Jean-François Pourri, et la jeune femme, ou le jeune homme qui a retranscrit ça sur les ordinateurs, a confondu mon U avec 2R, et je me suis retrouvé avec une carte de SACEM de Jean-François Pourri, P-O-2-R-Y. Donc le U est devenu 2R, et c'est pour ça que je suis devenu Jean-François Pourri.
Et il y a deux cas comme ça, c'est Johnny Hallyday, où une secrétaire a mal écrit le I à la place d'un Y, et Hugo Frey, qui au départ s'écrivait avec 2F, et un journaliste a mis un F. Donc c'est comme ça qu'il est resté Hugo Frey avec
et
un
voilà,
F.
Voilà.
Comme quand on fait l'histoire. Alors, Dorothée, au départ, c'était un risque, on vous a pris pour un fou, on vous a dit « ça marchera jamais ».
Oui, on m'a pas pris pour un fou, c'était compliqué, comme toujours quand quelqu'un commence. Non, mais on m'a pas dit ça marchera jamais, on pensait pas que ça marcherait, mais on m'a pas dit ça marchera jamais.
Alors, il y a eu un risque supplémentaire, aujourd'hui, quand on crée une comédie musicale, c'est un an à l'avance, des chansons, des clips. Vous avez carrément monté Dorothée au pays des chansons, à l'Olympia, du jour au lendemain, pour les après-midi, Jean-Luc Cazoulet.
On a commencé par faire Dorothée au pays des chansons, à la mairie de Paris,
oui,
sous la Tour Eiffel, dans un spectacle qui était offert par Antenne 2 à l'époque aux jeunes parisiens, avec la complicité de Jacques Chirac qui venait nous voir régulièrement, et on a fait donc cette comédie musicale sous la Tour Eiffel. quand on a fait cette comédie musicale, ça a tellement bien marché qu'on l'a reprise ensuite à l'Olympia.
Oui, mais ça a été un événement. C'est-à-dire que l'Olympia, petit à petit, les gens sont venus.
Ah bah oui, les gens sont venus. Mais Dorothée a toujours attiré beaucoup beaucoup de monde parce que elle est formidable.
Oui, et là, elle au départ, elle voulait pas chanter sur scène et elle s'est très bien débrouillée.
Ah ben Dorothée s'est débrouillée partout. Chaque fois de façon Dorothée, ça, je l'appelle Madame Non, c'est-à-dire qu'elle me dit Non, ça veut dire oui. Bon. Tu veux chanter? Non, mais elle chante. Tu veux faire de la télé? Non, mais elle chante. Tu veux faire le club Dorothée? Non, mais elle le fait. Tu veux faire Bercy? Non, mais ça va.
Voilà. Donc, il y a eu aussi une troupe qui a été montée. Il y avait notamment un frère de Patrick Devers dedans. Vous avez monté une véritable troupe autour de Dorothée à ce moment-là, Jean-Luc Cazot.
Oui, ben, il fallait faire un casting de toutes les chansons, puisque l'idée, c'était que tous les personnages soient des chansons. Donc, il y avait la chanson triste, la chanson comique, la chanson militaire. Et c'est vrai qu'on a fait un casting de toute une bande qui était formidable.
Alors, ça a continué ensuite avec des chansons pour enfants, toujours près du Champ de Mars, près des Invalides, toujours sous la houlette de Jacques Chirac. Et là, il y a eu une autre débutante qui s'appelait Zabou.
Zabou est arrivé dans Récréa 2, absolument. Et on a essayé de faire un disque avec Zabou même. On a enregistré, puis on ne l'a jamais sorti. Et puis, c'est une fille que j'adore, qui était déjà radieuse, et puis voilà.
Elle a débuté à l'âge de 4 ans. On voit une scène dans Thierry Lafronde où elle est toute petite en costume moyenâgeux, puisque son père était Jean-Claude Deray, Claude Bretman, le réalisateur, et sa mère Céline Léger, qui jouait Isabelle.
Isabelle, bah oui, justement, j'ai été très impressionné quand j'ai su qui étaient les parents de Zabou, parce que moi, j'adorais Thierry Lafronde.
Il y a eu ensuite 2,45 tours, et puis un jour, ben, il y a une chanson que vous avez enregistrée. Alors ça aussi, ça a été un événement. C'était pas la chanson numéro 1 de l'album au départ, Jean-Luc Cazot.
Ah, là on a eu un gros conflit, parce que il y avait deux chansons qui se battaient en duel. Il y avait ou La Menteuse, ou La Valise. Et il y avait les partisans de La Menteuse et les partisans de La Valise. Et finalement, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que dans le Sud, RMC à l'époque avait choisi La Valise, et dans le Nord, Europe 1 avait choisi ou La Menteuse. Donc, quand Dorothée allait dans le Sud, il réclamait La Valise, quand elle allait dans le Nord, il allait ou La Menteuse. Mais c'est ou La Menteuse qui l'a emporté finalement.
La Valise est devenue un feuilleton pratiquement.
Ah bah oui, La Valise, on en a fait à chaque album.
Mais comme ça, c'est venu comment?
Comment viennent les chansons? Vous savez, McCartney a dit un jour, une chanson, on la compose pas, on l'attrape, elle est dans le ciel, elle est dans les airs, et on l'attrape comme un papillon.
Et ou La Menteuse, ça a été attrapé comment?
Ou La Menteuse, avec Gérard Salès, on se réunit. On se réunit toujours d'ailleurs pour voir des chansons. Il se met sur le piano, je mets à côté, on fait nananer, nananana. Un jour c'est venu, ouh, La Menteuse. Ah, c'est pas mal ça. Donc ça nous a fait rire. On la montre à Dorothée, il dit oh, quelle horreur cette chanson. Bon, il dit bon, tu l'as fait. Bon, d'accord.
Et le phénomène de société est né, car c'est vraiment un phénomène de société et une expression populaire qui est née.
Complètement, qui continue encore. Il y a des gens qui disent ah, ouh, La Menteuse, mais je savais pas que c'était une chanson des petits jeunes maintenant.
Mais comment expliquez-vous ce succès? C'est arrivé au bon moment ou il y avait quelque chose de plus?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on attrape des choses dans l'air et ça marche ou ça marche pas. On sait pas, le jour où on saura, on arrêtera ce métier.
Et les Schtroumpfs, parce que là aussi, on a oublié, Dorothée a été la première à chanter les Schtroumpfs.
Oui, mais vous avez oublié quelque chose, il y a eu Roxy Rookie quand même avec Walt
bien
Disney.
Sûr. Oui, ça c'est bien sûr, mais les Schtroumpfs, il y a eu Roxy Rookie, il y en a eu d'autres, mais les Schtroumpfs ont été importants.
Les Schtroumpfs étaient très importants, surtout que nous avons eu la joie grâce à, je ne sais plus comment il s'appelait, un garçon sympathique, Jacques Pessis, de rencontrer Peyo, qui est devenu un ami, et ça a été toute une aventure. Les Schtroumpfs, on est même allé à Smurfland aux États-Unis avec Dorothée, enfin, c'était formidable.
Et d'ailleurs, l'origine du mot Schtroumpf reste incertaine. Certains disent que Peyo a dit à Franquin, son ami, le créateur de Gaston Lagaffe, passe-moi le Schtroumpf au
en passant du sel, oui.
Ouais. Et puis d'autres disent que Madame Franquin donnait ce nom à la partie intime de son mari. C'est les deux
versions. Non. Ce que nous a dit Peyo, Jacques, souviens-toi, ouais. On était là, c'est que c'était vraiment passe-moi le Schtroumpf, c'est passe-moi le sel.
Voilà. Et il les a introduits dans une bande dessinée pour rire comme ça, et c'est devenu le phare de sa carrière.
Mais d'après ce que nous avait dit Peyo aussi, le mot Schtroumpf était aussi comme truc en belge.
Exactement.
Pour les Belges. Donc c'est pas une création totale du mot.
Alors, on a dit aussi que les chansons de Dorothée, c'était pour enfants. Pas du tout.
Non, ces chansons, c'était des chansons toutes bêtes, des chansons.
Voilà. Mais en même temps, les concerts de Dorothée, que ce soit ensuite au Zénith à Bercy, c'était des concerts de rock avec les enfants qui dansaient dans la salle.
Et les parents. Parce que surtout, vous savez, le succès de Dorothée s'explique parce que Dorothée chantait des chansons que les enfants adoraient, mais que les parents aussi aimaient. Puisque moi, je suis resté dans tout ce qu'on a fait, très baigné par mes racines, salut les copains, et que donc toutes les chansons de Dorothée avaient cette base rock que les parents écoutaient à salut les copains. Et donc c'est ce qui leur a plu.
Et ces concerts au Zénith et à Bercy, c'était une folie. Et vous orchestrez tout, y compris les applaudissements de départ, Jean-Luc Azoulay.
Non, ça c'est un gag. C'est un gag avec Jacques Rouvérolis. C'est-à-dire
qui s'occupe des lumières.
Qui s'occupe des lumières. Donc on était tous les deux à la console de contrôle. Moi au son avec l'ingénieur du son et Jacques était juste à côté. Et on avait remarqué une chose avec Jacques, c'est que quand on commençait à applaudir dans une salle, comme ça, tout le monde applaudissait. Donc c'était un gag. C'était un gag entre nos... Allez, on fait applaudir et puis on fait ça.
Et ça marchait.
Et ça partait.
Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est la force de travail que vous avez, parce que entre les chansons, les albums, les concerts, vous étiez partout à la fois, vous n'avez jamais rien laissé passer, Jean-Luc Azoulay. Non, jamais.
Je sais pas.
Si, non, mais comment cette énergie de travailler...
Mais quand on aime quelque chose, on le fait à fond, c'est tout. Je veux dire, j'ai pas travaillé, j'avais une passion, j'avais des choses qui m'amusaient, j'avais des choses extraordinaires à faire, je les ai faites, c'est tout, on se pose pas de questions.
Et puis, il y a eu le Club Dorothée qui a été un événement en 87.
Le Club Dorothée, oui, qui a été formidable, parce que le Club Dorothée, il faut être honnête, le Club Dorothée est quand même le fils aîné de Récréa 2, puisqu'il y avait une partie de l'équipe de Récréa 2 qui était là, il y avait Dorothée, il y avait Jackie, il y avait Patrick Gibson-Jones, il y avait Corbier, et il y avait une partie de l'esprit, sauf qu'on a fait ça en beaucoup plus grand et en beaucoup plus fou. Donc c'est devenu le Club Dorothée.
Oui, et 22 heures de télévision par semaine, ce qui était unique, Jean-Luc Azoulay.
Oui, c'était pas mal.
Voilà, mais justement, pour ça, vous avez fait construire un immeuble dans un quartier qui n'intéressait personne.
On a fait construire plusieurs immeubles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de studio, il fallait qu'on trouve un studio. On a commencé par louer un studio, mais qui était vite trop petit. Et il s'est trouvé qu'il y avait, à quelques centaines de mètres de là, un vieux garage désaffecté à vendre. Donc on a acheté le garage et dessus on a construit des studios.
Mais dans un quartier, encore une fois, il n'y avait pas le Stade de France, il n'y avait pas les grandes émissions de télévision.
Il y avait les magasins généraux,
oui.
Et dans les magasins généraux étaient montés, c'était Pipa Vidéo qui avait monté ça, les premiers studios privés de télévision.
Mais à l'époque, on n'imaginait pas que ce serait ça, que ce serait vraiment le quartier de la télévision aujourd'hui.
Ah ben non, mais il y avait de la place. Si, la Place de la Chapelle, ça présentait un avantage, c'est que c'était des anciens entrepôts. Donc il y avait encore, aux portes de Paris, de la place pour construire de nouveaux bâtiments.
Et vous avez créé petit à petit des personnages, parce que ce soit Patrick Simpson-Jones, que ce soit les autres, c'était des personnages autour de Dorothée.
C'était des personnages autour de Dorothée, c'était une sorte de famille, une bande, comme vous voulez. C'est-à-dire que c'était vraiment... oui, une bande, je pense que c'est ça qui est intéressant.
Et une bande d'amis, parce que tout le monde, vous passiez votre vie ensemble.
Bah, on était forcés, on travaillait sans arrêt, donc le soir quand on finissait on allait dîner ensemble, et le lendemain on prenait le petit déjeuner ensemble, donc c'était un peu forcé.
Et tellement de travail que vous habitiez au-dessus du bureau.
À la fin, oui, j'ai trouvé la solution, je me suis fait construire un studio avec un toit plat, je me suis fait construire une maison sur le toit, voilà.
C'est une expérience unique dans l'histoire de la télévision, ce que vous avez fait, Jean-Luc Azoulay.
Je ne sais pas, Jacques, si. Parce que je ne connais pas toutes les expériences des autres.
Oui, mais en même temps, est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire le Club Dorothée ou le ferait aujourd'hui ?
Pourquoi pas ? Vous savez, tout est faisable.
Vous croyez ?
Oh oui, bien sûr.
Ouais, mais en tout cas, c'est pas pour demain ou après-demain, d'après ce que je peux savoir. Alors, en tout cas, on va continuer à parler de tout ça avec une autre date importante, le 12 février 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Luc Azoulay.
Sud Radio, les clés d'une vie, 11h midi, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Luc Azoulay. Une date importante, 12 février 2021, dans quelques jours, car ce sont les 10 ans de cette série. Les mystères de l'amour, saison 23.
Eh oui. Non, oui.
Ah oui, c'est 23.
T'es sûr ?
Ah oui, certain.
T'es sûr que c'est pas 24 ?
Non, c'est 23. La diffusée, la 24 est en tournage.
Ah, la 24 c'est juste après, c'est dans 15 jours, oui, voilà. C'est vrai.
Alors, c'est une aventure incroyable, c'est les dérivés de plusieurs séries, mais 23 saisons ou 24 saisons ?
Non, c'est pire que ça, c'est que c'est la suite d'Hélène et les garçons qui a commencé en 92, donc si vous calculez bien, 92-2021, ça fait 29 ans.
Oui. Que vous n'imaginiez pas au début.
Ben non.
Surtout qu'Hélène, je crois, est arrivée un jour, je crois, à Alençon, dans une...
Au Mans,
et qu'elle a voulu voir Dorothée, puis petit à petit, ben, vous lui avez fait un...
Non, on fait avec Dorothée un concert au Mans, dont l'organisatrice était la mère d'Hélène, parce que la mère d'Hélène, qui touchait à tout, avait voulu être organisatrice de spectacle, elle avait organisé le spectacle au Mans. Donc on va faire le concert, et la mère d'Hélène me dit « Ah, monsieur Azoulay, bonjour, vous savez que ma fille chante, j'aimerais bien que vous l'écoutiez. » Je dis « Bon, pourquoi pas, on dit ça tous les jours. » Donc avec Jean, pourquoi pas, jusqu'au moment où on va au catering et on voit une merveilleuse jeune fille qui sert au catering. Et la mère me dit, c'est elle, ma fille. Elle dit, ah bon, oui, on va l'écouter. Et donc, après le spectacle, on est resté sur scène pendant que les rôdes débarrassaient le plateau. Gérard s'est mis au piano, Hélène est venue avec nous, elle a chanté, on s'est aperçu qu'elle chantait bien. On s'est aperçu qu'elle jouait la guitare aussi, et c'est parti comme ça.
Et c'est parti comme ça, elle a fait un disque, et puis un jour, il y avait un feuilleton où il fallait une grande sœur à Justine.
C'est encore plus joli que ça, si on veut faire une histoire, c'est-à-dire que Hélène donc a fait son premier disque, s'appelait Dans ses grands yeux verts. Le disque sort, petit succès. Et Hélène est un peu triste. Elle me dit, je vais retourner au Mans. Non, tu vas rester. Et on commençait à monter donc le Club Dorothée. Et on avait besoin de gens pour travailler avec nous. Et donc j'ai dit, Hélène, en attendant, pour gagner ta vie, tu vas t'occuper du courrier du Club Dorothée avec l'équipe du courrier. Il y avait 4 ou 5 personnes, donc Hélène fait partie des 4 ou 5 personnes. Et parallèlement à ça, tout en s'occupant du courrier, quand il y avait un trou dans l'émission qui nous manquait 3 minutes, elle s'habillait tout à l'heure, elle venait chanter ses chansons dans le Club Dorothée. Et donc comme ça, elle faisait partie de la famille, elle a pu rester à Paris et vivre à Paris. Et puis, on a fait premier baiser, il me fallait une grande sœur pour Justine, et là j'ai mis Hélène, voilà.
Et ça a été tout de suite un succès.
Premier baiser, oui, ça a été immédiatement un succès.
Et les jeunes ont repéré Hélène.
Et les jeunes ont repéré Hélène, et puis moi j'avais déjà repéré Hélène depuis longtemps, et au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que Hélène et les garçons, Hélène avait suffisamment d'histoire pour faire une série à elle seule, c'est-à-dire qu'elle prenait trop de place dans Premier baiser, donc j'ai fait Hélène et les garçons.
Et d'ailleurs, ça a été une émeute, je me souviens, à Cannes, lorsqu'elle est venue, je crois, au MIT TV, ça a été grandiose.
Ça a été la Cannes bouchée, enfin, vraiment, c'était... Ils n'avaient jamais vu ça, même avec les plus grandes stars de cinéma.
Et à l'époque, il y avait cette chanson qu'on connaît tous.
Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres.
Là aussi, une chanson que vous avez attrapée au vol, Jean-Luc Cazot.
Complètement, il fallait faire une chanson d'entrée pour Hélène à Bercy, qui faisait Bercy pour la première fois. On s'est mis au travail avec Gérard, et puis on dit, tiens, allez, Hélène, je m'appelle Hélène, et puis voilà.
Et elle a fait, je crois, la première partie de Dorothée en Chine, à tel point qu'il y a quelques années, je suis allé en Chine pour un spectacle, et on m'a dit, vous connaissez qui en France ? J'ai dit, je connais Hélène. Je suis devenu un dieu vivant, parce que Hélène, là-bas, c'est une déesse.
Hélène, la chanson Hélène, je m'appelle Hélène, par un hasard totalement miraculeux, est arrivée en Chine, et est devenue un standard. C'est-à-dire que tout le monde connaît Hélène en Chine. Vous rencontrez un Chinois, même à Paris, vous lui dites « Hélène », il dit « Ah oui !» Et il s'est passé une chose énorme, et Hélène, donc, grâce à ça, fait des tournées en Chine régulièrement. On devait y partir en mars dernier, ça a été retardé, je ne sais plus pourquoi. Et là, dès que ça reprend, on va repartir en Chine. Et chose même plus extraordinaire, le président chinois, quand il est venu à Paris, dans la liste des invités qu'il souhaitait recevoir à l'Élysée, a mis Hélène, et donc Hélène a rencontré le président chinois et le président français à l'Élysée.
Alors, le sitcom, c'est vraiment votre spécialité, Jean-Luc Cazoulet, et je crois que le sitcom, ça remonte aux années Sylvie Vartan, lorsque vous étiez aux États-Unis avec elle. C'est là où vous avez vu les premiers sitcoms.
J'ai beaucoup voyagé avec Sylvie, en effet, j'ai donc vu les télés un petit peu de tous les pays du monde, et aux États-Unis, j'ai trouvé ça formidable, j'ai vu les premières sitcoms, parce que eux font ça depuis toujours, et j'ai trouvé ça formidable. Donc quand je suis revenu, quand je suis devenu producteur et que j'ai eu les moyens de le faire, j'ai voulu produire une sitcom.
Oui, parce qu'au départ, lorsque vous avez créé AB Productions, vous aviez déjà des idées de sitcom, mais ça n'intéressait pas la télévision.
Non, mais vous savez, on a fait des sitcoms pirates, encore une fois. C'est-à-dire que dans le Club Dorothée, on avait un certain nombre d'heures dans lesquelles il fallait qu'on mette des plateaux, des dessins animés, des chansons. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas mettre une fiction ? Et donc avec les moyens de dessins animés, avec les moyens du Club Dorothée, avec les studios qu'on avait, le personnel qu'on avait, on a fait Salut les Musclés. Et Salut les Musclés, c'est devenu tout seul. On a montré ça un jour, j'ai dit « Etienne, tiens, j'ai mis ça pour le Club Dorothée ». Il m'a dit « Ah bon, c'est quoi ?» Je lui ai dit « C'est une sitcom ». Il m'a dit « Ah bon, bah écoute, regarde, si ça marche, on garde, si ça marche pas, on garde pas ».
Et voilà. Ça a marché. En tout cas, la première sitcom qui a été créée à la télévision, ça a remplacé le Cocorico Boy, ça s'appelait La Famille Barjo. Mm-hmm. Ça a été un échec total, c'est même pas allé au bout des 65 épisodes, parce que les Français étaient caricaturés et les téléspectateurs n'aimaient pas ça.
Bah oui, vous savez, il faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent, c'est pas parce qu'une sitcom ne marche pas que toutes les sitcoms n'ont pas marché, ou c'est pas parce qu'une sitcom marche que toutes les sitcoms ont marché. Chaque produit est différent.
Et puis il y avait un rendez-vous incontournable à cette époque-là, le dimanche matin, c'était Pas de pitié pour les croissants.
Ah oui.
Comment c'est né ça ?
Bah, Pas de pitié pour les croissants, c'est avec Robert Réa, on avait envie de faire
le réalisateur.
Une émission, Oui, le réalisateur, le premier réalisateur du Club Dorothée, avant Pat Le Guen, on avait envie de faire une émission, une série un peu burlesque, un peu folle, en fond vert. Et on a cherché le titre longtemps, et un jour Robert, c'est lui qui a trouvé le titre, me dit « Pas de pitié pour les croissants ». Donc on a commencé ça, et j'ai écrit des choses complètement folles, ce qui m'amusait follement, et ce qui amusait follement tout le monde, ou tout le personnel. Tout le personnel avait un rôle, c'est-à-dire quand il manquait un albardier, il y avait le cadreur qui donnait l'albardier, etc.
Alors, j'en reviens au mystère de l'amour, donc 10 ans, une saison 23 ou 24, ça peut continuer longtemps, parce que les personnages vieillissent avec les téléspectateurs.
Complètement. Moi, je pense qu'on va aller jusqu'en 2083.
Parce oui, que peut-être 84.
Non, 83, non, non. On arrêtera en 83, parce qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Oui.
Et à chaque fois, bon, Hélène est partie, elle est revenue, elle est toujours présente.
Bah, Hélène est toujours présente, Nicolas est toujours présent, et puis il y a des nouveaux, il y a toute une équipe de jeunes qui arrivent, il y a les enfants de Nicolas, il y a Niki, il y a Lou, il y a Léa, la fille de Bénédicte. Et puis il y a des nouveaux, il y a Elsa Esnou qui est chanteuse et qui est avec Cri-Cri d'amour, elle a remplacé Johanna, enfin il y a plein de choses.
Et comment on trouve ces comédiennes? Ce sont des castings, c'est l'instinct Jean-Luc Azoulay?
C'est des castings, c'est beaucoup de castings, et bon à ce moment-là il y a des personnalités qui ressortent et qui correspondent à un rôle dont on a envie.
C'est tout. Le record, c'est quand même Les Feux de l'amour, avec 11 000 épisodes à ce jour.
Non, 14 000.
14 000, oui, mais 11 000 diffusés en France.
Ah oui, c'est ça.
Et il y a quand même des gens comme Tom Selleck, comme David Hasselhoff ou Eva Longoria qui ont débuté dans ce feuilleton.
Complètement.
Et donc, il y a peut-être des gens qui débutent chez vous et qui ensuite deviennent des stars.
C'est des stars déjà.
Voilà, mais en même temps, ils peuvent devenir des stars ailleurs. Alors, tout ça, il faut l'écrire.
Il n'y a pas d'ailleurs, Jacques.
On est bien d'accord. Il y a Cazoulet. Alors justement.
Non, il n'y a pas Cazoulet. Il n'y a pas d'ailleurs, c'est tout.
Aux États-Unis, il y a des équipes qui écrivent des sitcoms. Là, c'est vous tout seul.
Alors, détrompez-vous, parce que là, je me suis renseigné quand même. Aux États-Unis, c'est pas des équipes qui écrivent, comme c'est deux ou trois personnes maximum qui écrivent, parce que sinon, on n'a pas l'unité. C'est-à-dire qu'il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens qui donnent des pitchs. Il y a des gens qui disent « Ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça », donc c'est comme des documentalistes, si vous voulez. Mais les gens qui écrivent sont pas nombreux aux États-Unis non plus. Les équipes de 50 auteurs, c'est pas vrai. Il y a des équipes de documentalistes qui disent « Ah tiens, par exemple dans Les Policiers, il y a telle histoire qu'on pourrait reprendre », mais il n'y a pas de...
Alors que là, vous êtes tout seul quand même pour écrire ?
Non, j'ai une secrétaire.
Oui, quand même. Enfin,
c'est... Ah bah oui.
Mais comment on arrive à écrire aussi vite des épisodes, à les dicter, à se souvenir de toutes les situations, à ne pas mélanger les choses? Dumas, il avait des petits personnages sur sa cheminée pour s'y retrouver.
Non, il avait ça, Alexandre. Oui. Il m'en a jamais parlé.
Je m'en doute.
Ah bon? Non, mais je sais pas. Non, c'est comme ça. Moi, je les connais par cœur. C'est mes copains. En plus, je connais les comédiens qui les représentent. Et il y a toujours un lien entre le comédien et le personnage qu'il joue. Quelque part, c'est une de leurs facettes que j'exploite. Donc ça va, c'est relativement facile à écrire.
Et puis, un jour, vous avez fait un pari encore plus fou. Vous avez racheté la société Pierre Grimblat. Pierre Grimblat avait créé Hamster, non sans difficulté. Moi, quand je le connaissais à ses débuts, personne ne voulait de ses fictions, personne ne voulait de Navarro. Il s'est battu, il a créé un genre dont vous assurez la relève aujourd'hui, Jean-Luc Azoulay.
Complètement. Et Pierre était un grand homme avec qui on est devenu très, très amis. Et c'est formidable parce que on n'avait rien pour s'entendre au départ. Bon, d'une part, il était... Ashkenaz était séfarade, donc déjà c'est deux mondes qui sont totalement différents. Et ensuite, c'était la tradition française. Moi, j'étais le petit nouveau qui arrivait et qui bouleversait tout. Et ben, on est devenus très amis. Et Pierre vraiment était quelqu'un de très précieux aussi pour moi dans mes rencontres.
C'est-à-dire que vous avez commencé par reprendre des séries mythiques comme L'Instit ou Navarro, qui vous a permis de retrouver Roger Hanin, dont vous aviez produit une chanson en 82 qui s'appelait Je ne peux pas croire.
J'ai eu beaucoup de chance parce que si vous voulez, quand on a repris Hamster, tout le monde disait mais comment est-ce qu'il va être accepté par Roger Hanin? Or, justement, on avait fait une chanson, on avait fait des disques avec Roger Hanin, donc Roger était mon copain. Et L'Instit, comment est-ce qu'il va réussir à gérer l'Instit? Or, Gérard Klein, c'était un vieux copain parce qu'il était animateur radio et qu'on y allait avec Sylvie Vartan. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance.
Et puis, vous avez ouvert la voie de nouvelles séries. Aujourd'hui, il y a des nouvelles comédiennes comme Lola Devers et beaucoup d'autres qui sont les héroïnes de ces fictions, car vous avez aussi modernisé ces fictions.
Oui, on a toute une équipe qui travaille avec nous, qui sont de jeunes producteurs, de jeunes auteurs, ou des vieux auteurs d'ailleurs, ou des vieux producteurs. Mais on a, on a Camping Paradis forcément, qui marche bien. On a Munch avec Isabelle Nanty, qui marche très très bien aussi. On a Magellan avec Jacques Spicer, qui marche très bien. On a Astrid et Raphaël, donc avec ces deux jeunes femmes. On a avec Julie Depardieu, Alexandra L. Et on a beaucoup d'autres choses en développement, donc c'est formidable.
Il faut superviser tout ça, Jean-Luc Azoulay.
Oui, mais je supervise, mais je fais confiance. Vous savez, je pense qu'on a des producteurs aguerris, et je fais confiance. Donc je regarde, je mets mon avis de temps en temps, mais en général, ça me plaît.
Voilà. Vous avez aussi un projet avec Marek Alter, je crois.
Oh, ça fait longtemps qu'on a un projet avec Marek, j'espère qu'on va y arriver.
Voilà. Et puis, eh bien, il y a également, parce que vous n'oubliez pas la chanson, celle que vous avez découverte. Elsa Esnou, c'est votre dernière.
Elsa Esnou, ben oui, notre...
Ça, comment vous l'avez trouvé ?
Casting, toujours. Voilà. Alors, pour vous dire la vérité, c'est Ariane Carletti, qui hélas nous a quittés, qui travaillait avec moi à l'époque, qui l'a repéré sur le site de son agent, et qui a dit, ah celle-là, c'est tout à fait le style de la maison. Donc elle a appelé, on a rencontré Elsa Esnou, elle a passé un casting, on s'est aperçu qu'elle était jolie, bon ça c'était pas très difficile, qu'elle était bonne comédienne, et qu'elle chantait formidablement bien. Donc elle a intégré l'équipe des Mystères de l'Amour, dans lequel j'avais besoin justement d'une jeune chanteuse, et petit à petit, elle s'est imposée.
C'est-à-dire qu'à petit à petit, les personnages se développent et font d'autres choses.
Bah, s'ils sont bien, ils se développent, s'ils sont pas bien, on les oublie.
Voilà. Alors, elle va repartir en tournée, elle a fait des disques qui sont des ventes exceptionnelles en ce moment. Elle repart en tournée avec Gilbert Coulier, d'ailleurs.
Qui était le tourneur de Dorothée, d'Hélène, mon ami Gilbert, qui croit autant en Elsa que moi, et qui m'a dit, écoute, tu vas voir, on va finir à Bercy très vite. Ah. Et donc, voilà, on commence une grande tournée à travers toute la France, la Belgique, partout.
Ce qui est une caractéristique chez vous, c'est la fidélité, Jean-Luc Azoulay.
Bah, oui, c'est normal. Mais
c'est pas si courant.
Si, quand on a des amis, on garde ses amis, ou alors c'est qu'on est un peu stupide.
Et la chaîne de télévision IDF que vous avez lancée ?
Eh ben, elle tourne toujours. C'est pas très facile parce qu'en ce moment, au niveau des ressources publicitaires, les ressources locales, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de coiffeur, donc c'est un peu compliqué, mais ça tourne toujours.
Et la retraite ?
Alors la retraite, au flambeau, bien sûr.
Oui, pas question, vous travaillerez jusqu'au bout.
J'ai pensé à la retraite des Blanches, mais oui. Il paraît que c'est dangereux.
Oui, exactement. Non, mais vous avez encore plein de projets, plein d'envies, Jean-Luc.
Ah bah oui, de toute façon, j'ai encore au moins 50 ans devant moi, quand même. Voilà.
Qu'est-ce qui vous motive ?
Toi, Jacques.
Mais non, sérieusement.
Je sais pas, ça m'amuse.
Ça vous amuse ?
C'est juste le plaisir de faire.
Et vous continuerez à vivre pour le plaisir et à travailler.
Absolument.
Eh ben, ne changez rien, surtout.
Merci, Jacques. Toi non plus, hein.
Je vais essayer. Merci, Jean-Luc Azoulay. Donc, on sera là, bien sûr, pour suivre les Mystères de l'Amour le 12 février et toutes les autres dates. Et pour suivre...
Ça commence samedi 9, dimanche 10. Donc, ça va. Le 12 février, on a le temps. Ça commence en janvier.
Oui, on a le temps. Mais enfin, et puis on ira voir Elsa Esnou dès que ce sera possible.
Bon, très bien.
Merci, Jean-Luc Azoulay. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.